Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du lundi 9 mai 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. Ouverture aujourd'hui à Abidjan de la COP 15, un forum contre la désertification. Reprise du procès du djihadiste malien Abdul Aziz Al-Hassan devant la CPI. Nigeria, les compagnies aériennes annulent la suspension de leurs activités. La guerre en Ukraine, Kiev a demandé à obtenir la tenue d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Ouverture ce lundi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de la COP 15 contre la désertification pour tenter d'agir concrètement face à la dégradation rapide des terres et répondre à l'urgence climatique avec des mesures concrètes. Le point avec Nali Talani.
Cette 15e conférence des parties de la Convention de l'ONU sur la lutte contre la désertification aborde des questions tout aussi cruciales à l'heure où l'ONU estime que 40% des terres sont dégradées dans le monde, notamment la bande sahélienne de l'Afrique. En ouverture des assises auxquelles 9 chefs d'État africains sont présents, le président ivoirien Alassane Ouattara a pressé le monde à agir.
Notre sommet se tient dans un contexte d'urgence climatique qui impacte durement nos politiques de gestion des terres et exacerbe le phénomène de sécheresse. Nos peuples fondent beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de la décevoir. Agissons vite. Agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres.
La conférence portera une attention particulière à la restauration d'un milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030, la pérennité de l'utilisation des terres face aux impacts du changement climatique et la lutte contre l'augmentation des risques de catastrophes tels que les sécheresses, les tempêtes de sable et de poussière et les incendies de forêt, indique l'ONU. La question de la Grande Muraille Verte visant à restaurer 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique d'ici 2030 sur une bande de 8000 km allant du Sénégal à Djibouti devrait notamment être abordée au cours des travaux. Les participants à la COP 15, qui se tient jusqu'au 20 mai, tenteront de proposer des mesures concrètes pour stopper l'accroissement de la désertification.
Reprise du procès d'un djihadiste malien jugé pour crime de guerre et crime contre l'humanité devant la Cour pénale internationale. L'avocate d'Abdul Aziz Al-Hassan estime que la destruction de mausolées à Tombouctou, dont son client est accusé, le fruit de la négligence des colonisateurs français. Le point avec Abdul Rahman Dia.
L'avocate Melinda Taylor a indiqué devant les juges que, je cite, « les événements de l'année 2012 sont le fruit de la corruption et de la négligence des colonisateurs français. L'État du Mali était une fiction créée par les colonisateurs français qui a existé sur le papier mais jamais en réalité », a poursuivi Mme Taylor. Les Français ont laissé le nord du pays se débrouiller tout seul et ce, conformément aux pratiques tribales et religieuses, a-t-elle ajouté. Pour la défense, Alassane était religieux mais n'était pas un extrémiste. Sous le contrôle des djihadistes, une vague de destruction s'est abattue en 2012 et 2013 sur la ville de Tombouctou, surnommée la ville de 333 saints pour le nombre de sages musulmans qui y sont enterrés. Al-Hassan, 44 ans, ressortissant malien et père de 5 enfants, est jugé pour crime de guerre et crime contre l'humanité devant la CPI qui siège à La Haye. Il est accusé de torture, viol et esclavage sexuel commis dans le contexte de mariage forcé et de destruction de mausolées à Tombouctou, surnommée la perle du désert. Son procès s'est ouvert en 2020.
Génocide rwandais, le procès de l'ex-préfet Laurent Mbouchi-Baruta s'est ouvert aujourd'hui devant les assises de Paris. Ancien préfet de Gikongoro, une région du sud du Rwanda, Laurent Mbouchi-Baruta est accusé d'avoir encouragé et ordonné des exécutions de Tutsis réfugiés dans une école de Murambi pour échapper au massacre. L'accusé clame son innocence. Réfugié en France depuis 1997, sous contrôle judiciaire, Laurent Mbouchi-Baruta Ruta doit comparaître pendant plus de deux mois pour génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Il encourt la perpétuité. Au Nigeria, les compagnies aériennes ont finalement renoncé à la suspension de leurs activités, initialement prévues ce lundi, en raison de l'envolée des prix du kérosène. Les détails avec Claire Morin-Jibou.
La suspension, jusqu'à nouvel ordre, des vols intérieurs en raison de la flambée du kérosène a été annoncée vendredi par l'Association des opérateurs aériens du Nigeria. Mais suite aux promesses du gouvernement qui a assuré intervenir d'urgence face aux coûts astronomiques et sans cesse croissants du kérosène, la ON est revenue pour le moment sur sa décision dans l'intérêt de l'économie nationale. Depuis l'invasion de l'Ukraine et les sanctions imposées à Moscou, les cours mondiaux du pétrole se sont envolés, provoquant une flambée des prix du carburant dans de nombreux pays. Au Nigeria, le prix du kérosène a presque quadruplé. La menace de suspendre l'intégralité des vols intérieurs a provoqué une pluie de réactions, les autorités appelant l'AON à considérer l'effet multiplicateur de l'arrêt de leurs opérations sur les Nigérians et voyageurs du monde entier.
Au moins 11 personnes sont portées disparues après le naufrage vendredi d'un chalutier au large du Ghana, ont déclaré aujourd'hui les autorités ghanéennes. Le MV Comfort 2, navire ghanéen exploité par une société chinoise, a coulé pendant une tempête à environ 180 km au large de Takoradi, deuxième port du Ghana. 4 touristes sud-africains sont portés disparus depuis 3 jours dans le canyon de la rivière Fish en Namibie, l'un des plus vastes du monde, a annoncé aujourd'hui la compagnie touristique nationale Namibia Wildlife Resort. Ces touristes font partie d'un groupe de 10 Sud-Africains qui avaient envoyé un appel de détresse samedi car ils ne parvenaient pas à sortir du canyon. Une opération de secours a été lancée avec un hélicoptère et une équipe sur le terrain.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a affirmé se battre pour défendre la patrie. Kiev a pour sa part demandé et obtenu la tenue d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les derniers développements avec Mouamadou Mfa.
Vladimir Poutine a proclamé que son armée combattait en Ukraine pour défendre la patrie face à la menace inacceptable, selon lui, que représente son voisin soutenu par l'Occident. Une déclaration faite devant les milliers de soldats russes défilant sur la place rouge pour marquer l'anniversaire de la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie. Auparavant, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky a promis que son pays ne laisserait pas Moscou s'approprier la victoire sur le nazisme, tout en se disant confiant dans une victoire prochaine de l'Ukraine contre les forces russes. En visite surprise à Odessa, grande ville du sud de l'Ukraine, le président du Conseil européen Charles Michel a été forcé de s'abriter en raison de frappes de missiles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, part à Hongrie pour discuter avec le Premier ministre Viktor Orban de la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Europe. Budapest bloque un projet d'embargo sur le pétrole russe. Le président français Emmanuel Macron a quant à lui déclaré que la paix devra se construire sans humilier la Russie. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va organiser jeudi, à la demande de Kiev, une session extraordinaire sur la détérioration de la situation des droits humains en Ukraine.
L'Union européenne devrait envisager de saisir les réserves de change gelé de la Russie pour aider à payer le coût de la reconstruction de l'Ukraine après la guerre, a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, dans un entretien accordé au Financial Times. Parallèlement, la Commission européenne compte donner en juin son avis sur l'obtention par l'Ukraine du statut de candidat à l'Union européenne, susceptible d'ouvrir la voie à un long processus de négociation nécessitant l'accord des 27. L'ancien Premier ministre français François Fillon a été condamné aujourd'hui en appel à 4 ans de prison, dont un an ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité dans une affaire d'emploi fictif de son épouse Pénélope Fillon. Madame Fillon s'est vue, elle, infliger 2 ans de prison avec sursis et 375 000 euros d'amende. Le pape François a reporté sa visite au Liban, initialement prévue en juin, pour des raisons de santé, a annoncé aujourd'hui le ministre libanais du tourisme, Walid Nassar. Le projet du pape de se rendre du Liban à Jérusalem le 14 juin
pour rencontrer le patriarche de l'église orthodoxe russe, Cyril, avait déjà été annulé en raison de la guerre en Ukraine. François doit effectuer deux autres voyages en juillet, l'un au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo, et l'autre au Canada. Les grandes puissances du G7 et l'Union européenne ont exprimé aujourd'hui leur grave préoccupation après la désignation à la tête de Hong Kong de l'ex-patron de la sécurité de l'ex-colonie britannique qui avait supervisé la répression du mouvement anti-démocratie. Dans un communiqué, les chefs de la diplomatie du G7 et de l'Union européenne s'inquiètent notamment d'une érosion constante des droits politiques et civiques et de l'autonomie de Hong Kong. Et puis les États-Unis ont demandé une réunion d'urgence publique du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Corée du Nord après ces derniers tirs de missiles balistiques qui devraient se tenir mercredi. Cette réunion se tiendra alors que les États-Unis craignent que la Corée du Nord ne reprenne ses essais nucléaires dans les semaines à venir. Washington, président d'exercice du Conseil de sécurité en main, réfléchissait depuis la fin de la semaine dernière à la tenue d'une session sur le dernier tir organisé par Pyongyang. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Mouamadou Moufa.
Au Nigeria, les compagnies aériennes ont finalement renoncé à la suspension de leurs activités initialement prévues ce lundi en raison de l'envolée des prix du kérosène. L'association des opérateurs du secteur dit avoir reçu des promesses d'intervention d'urgence du gouvernement. Le prix du litre du kérosène de type Jet A1 a presque quadruplé, impactant un secteur déjà touché par les restrictions imposées par la pandémie de COVID-19. La zone économique de l'UMOA a enregistré un taux d'inflation de 6,6% en mars 2022, selon le bulletin mensuel des statistiques de la BCAO, relayé par Westaf.com. L'inflation a été tirée, selon la BCAO, par la hausse des prix des produits alimentaires, des boissons non alcoolisées, du logement et des transports. Cette hausse est également imputable à la crise ukrainienne et aux effets de la pandémie de COVID-19. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rend en Hongrie ce lundi pour discuter avec le Premier ministre Viktor Orbán de la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Europe. La Hongrie, qui dépend à 65% du pétrole russe, demande à ses partenaires de l'UE des garanties pour ses approvisionnements avant de donner son accord à un sixième paquet de sanctions contre la Russie, comprenant un arrêt des achats de pétrole à ce pays.
Place maintenant au sport avec Nani Talani.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. Perte immense pour le football congolais qui perd son ailier international Jody Lukoki, mort ce lundi à l'âge de 29 ans dans des circonstances non encore révélées, informe Sport News Africa. L'attaquant droit a joué dans plusieurs clubs européens après une formation à l'Ajax Amsterdam, avec lequel il a disputé 35 matchs officiels entre 2011 et 2013, devenant trois fois champion national au cours de cette période. Lukoki, congolo-néerlandais, compte trois sélections avec la RDC. La FIFA confirme que le match polémique entre le Brésil de Neymar et l'Argentine de Lionel Messi, comptant pour les qualifications pour le Mondial 2022, va être bien rejoué suite au rejet par sa commission de recours de l'appel des deux fédérations nationales concernées. Ce choc, initialement programmé le 5 septembre dernier à Sao Paulo, a été interrompu après seulement 5 minutes de jeu sur intervention des autorités sanitaires locales, quatre joueurs de l'Albicéleste, évoluant alors en Angleterre, ayant été accusés de violer le protocole anti-Covid. Des représentants de l'agence sanitaire et de la police fédérale étaient entrés sur le terrain pour mettre fin à la rencontre dans la confusion la plus totale. La FIFA maintient aussi l'amende d'environ 48 000 euros imposée à chacune des deux fédérations. Qu'importe le résultat, les Brésiliens sont certains de terminer en tête de la poule et les Argentins à la deuxième place. La tenue de cette affiche devrait donc n'avoir aucun enjeu comptable, mis à part le fait de boucler définitivement le calendrier de la poule unique sud-américaine. Pour terminer, en tennis, la japonaise Naomi Osaka, souffrant du tendon d'Achille depuis le tournoi de Madrid d'Espagne, déclare forfait pour le tournoi 1000 sur terre battue de Rome de l'association de tennis féminin pour ne pas prendre de risque avant Roland-Garros, qui se tiendra du 22 mai au 5 juin. L'ex numéro 1 mondial, actuellement 38e, a été battue au deuxième tour à Madrid par l'Espagnole Sara Sorribes, 47e, 6-3-6-1. Naomi Osaka est remplacée dans le tableau féminin à Rome par une autre Espagnole, Nuria Paritas Diaz, 51e.
Page de sport signée Nanit Saladi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Bénin, les boulangeries tournent au ralenti depuis environ un mois. Au banc des accusés, la cherté doublée d'une rareté du blé entièrement importé de la Russie. Avec la crise russo-ukrainienne, le Bénin s'est retrouvé en difficulté comme beaucoup de pays. Le reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
L'invasion de l'Ukraine et les sanctions contre la Russie signifient pour bon nombre de pays africains la guerre pour le blé ou bien la galère pour obtenir du blé. Dans un rapport d'évaluation sur l'impact du conflit russo-ukrainien sur le commerce et le développement, la CNUSED a indiqué qu'en Afrique, le Bénin fait partie des pays qui dépendent presque entièrement du blé russe. En 2020, le Bénin a acheté à la Russie quelques 29 000 tonnes de blé. La crise en Ukraine et les sanctions qui ont suivi sont une mauvaise nouvelle pour les boulangers béninois. Selma Gamon est le président de l'association des promoteurs et exploitants de boulangerie littorale.
Le secteur aujourd'hui est en agonie. Tous ceux qui sont promoteurs et exploitants de boulangerie aujourd'hui, c'est la souffrance totale. Nous souffrons plus que ce que nous vivons avant. On est en train d'aller à la fermeture pour nos capacités de produire. Le problème, c'est au niveau de la farine de blé. Le peu que nous trouvons sur le marché, aujourd'hui, c'est à 29 000, 30 000 que nous trouvons la farine. Vous n'allez pas dans le marché même trouver la farine. Le Bénin consomme 10 000 tonnes de sacs par mois. La capacité du Grand Moulin, qui est la seule usine qui travaille actuellement, est de 4 000 tonnes par mois. Vous voyez déjà la différence là. Il n'arrive même pas à produire les 4 000 tonnes par mois.
De 16 000 francs CFA, le sac de farine de blé est passé à 29 000 ou 30 000 par endroit. C'est la désolation chez certains employés de boulangerie qui estiment qu'ils vont payer le prix de cette situation.
S'il y a augmentation d'un prix d'un produit du jour au lendemain, les gens vont s'abstenir d'abord avant de se relancer dans l'activité.
Il y a les longues files d'attente, ils attendent trois avant de prendre une petite quantité de pain. Le prix n'a pas augmenté, le prix c'est toujours le même. Ça fait même aussi qu'au niveau de la comptabilité, ça agit vraiment sur nous.
C'est donc tourner au ralenti ou tourner en rond, ce qui est toujours un choix cornélien. Au début de la rareté du blé, certaines boulangeries ont de façon isolée décidé d'augmenter le prix de la baguette au grand désarroi des consommateurs qui n'entendent pas payer le pain à 150 francs CFA au lieu de 125 francs CFA.
C'est un peu compliqué quoi. Tout est cher maintenant, on ne comprend plus. Et le pain qu'on mange aussi là, le pain est encore devenu 150. On va faire comment maintenant?
J'ai peur. Les choses qui viennent là, comment ça va devenir? Je ne sais pas. Donc ça me fait peur quand même.
Et je pense que ça ne va pas maintenant. Hein. Le pain jusqu'à 150.
Pour calmer les esprits et éviter les risques de surchauffe au sein de la population, le gouvernement a ordonné aux promoteurs le retour à l'ancien tarif de 105 francs CFA la baguette. Alors certains boulangers se sentent obligés d'inventer d'autres moyens pour survivre. Ils sont accusés de diminuer le poids de la baguette et ils se défendent.
C'est une loi. Et nous sommes dans un état de droit. Et le consommateur aussi a ses droits. On a l'obligation de respecter.
On ne doit pas tricher avec ça. C'est les 200 grammes. Je crois que tout le monde doit respecter. Les 200 grammes qu'on a dit. Nous sommes des habitués de ces pains. Donc, même aux yeux fermés, on coupait les pains et ça marchait depuis nos aïeux.
L'introduction des céréales locales pour faire du pain semble être une option crédible pour remplacer le blé venu d'ailleurs qui se raréfie et est devenu cher. Pour Salami Amizat Bissiriou du ministère du Commerce, certains le font déjà et la généralisation ne peut être que bénéfique pour le Bénin.
Le pain, c'est un produit de grande consommation dans notre pays. Et le pain là est produit avec du blé. Le blé n'est pas cultivé au Bénin. Donc, du point de vue économique, ce n'est pas une bonne chose. Tout le monde est d'accord, est tombé d'accord, qu'on soit importateur, industriel ou autre, qu'on peut bel et bien introduit la farine locale dans la farine de blé.
Dans le souci de soulager les pâtissiers et boulangers, le gouvernement a décidé le 23 mars dernier de procéder à une exonération de la TVA, la taxe sur valeur ajoutée perçue sur la farine de blé et les huiles végétales, qu'elles soient produites localement ou importées. Si une bonne partie des Béninois ne savent pas où se trouve l'Ukraine, la guerre de Poutine a aussi des effets ravageurs sur le panier de la ménagère au Bénin. De Cotonou, je n'ai plus à donner pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, cela fait près d'un mois que 8 mineurs sont bloqués suite à des inondations souterraines dans la mine de Perkoa dans le centre-ouest. Tout le pays est suspendu au sort de ces mineurs. L'espoir de les retrouver vivants est mince, mais les familles espèrent toujours. Le correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, Lamine Traoré, s'est rendu à Perkoa. Reportage.
Depuis le 16 avril, 8 travailleurs de cette mine sont ensevelis sous terre suite à des inondations. Depuis, les recherches se poursuivent sans relâche. Des machines continuent de pomper l'eau. À ce jour, 2 voies de pompage sont opérationnelles, mais il faut une troisième pour aller vite. Une première chambre de refuge a été retrouvée, mais il n'y avait personne. Les secouristes fondent beaucoup d'espoir sur la deuxième chambre de refuge. Bassolma Bazier, ministre du Travail.
Le 23, quand nous sommes arrivés, la première descente que j'ai eu à faire, le niveau était à 520. Or, aujourd'hui, nous avons déjà amorcé les strates. Chaque strate compte 30 mètres. Nous avons déjà amorcé la strate qu'ils appellent la strate de 580. Ça veut dire la profondeur de 580. Or, il ressort clairement que la chambre sur laquelle nous portons beaucoup d'espoir se retrouve sur la partie de cette strate. Le pompage a mis beaucoup de temps parce qu'il y avait beaucoup de jonctions, d'intersections.
C'est une course contre la montre qui est engagée. Le ministre du Travail, Bassolma Bazier.
Les délais qu'on donne pour dire tel jour, nous, ce n'est pas ce qui nous convient. Nous aurions souhaité qu'à l'instant même où nous vous parlions, que ceux qui sont dans les forces nous appellent pour dire que les frères ont été libérés. Nous ne sommes pas à des questions de délai, nous sommes à des questions d'exiger une rapidité, d'exiger aller vite.
Le QG de la cellule de crise se trouve au Haut Commissariat de Réau. Les autorités font ici des points quotidiens aux familles des victimes. Antoine Bama est le porte-parole des familles des victimes.
On vient le matin, on repart le soir. On a dit que tant que nos parents ne sont pas là, tant que nos frères qui sont bloqués dans la mine ne sont pas là, nous n'allons pas repartir dormir à la maison. Et ce n'est plus trop loin donc de la chambre de refuge. Ils entament donc le niveau 580. Alors que c'est au niveau 580 également que se trouve la chambre de refuge. Voilà, donc il y a de l'espoir, on a de l'espoir.
On peut même dire que le pays retient son souffle pendant que les recherches continuent. Beaucoup refusent de croire au pays. L'espoir, et rien que l'espoir, les fait vivre. Lamine Traoré, Perkoa et Réau, VOA Afrique.
Direction maintenant le Tchad, les parents des victimes des conflits intercommunautaires survenus le 9 février dernier à Sandana, dans le sud du Tchad, et leurs avocats dénoncent la lenteur judiciaire dans le traitement de leurs dossiers. Aucune action judiciaire n'est engagée contre les présumés auteurs alors que la commission d'enquête mise en place a déposé son rapport partiel depuis le mois de mars. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Après le passage du président du Conseil militaire de transition, des ministres et des conseillers nationaux suite à ce conflit qui avait fait 13 morts, des instructions fermes ont été données pour que justice soit rendue. 3 mois après le passage de toutes ces personnalités, les parents des victimes se plaignent que leurs doléances n'ont pas été prises en compte. Carlos Tirayadi est le président du comité de crise de Sandana.
Les parents, à travers le comité de crise, ont réclamé l'arrestation systématique des auteurs et co-auteurs, ainsi que les complices de ces crimes pour les traduire en justice. Le déguerpissement des 10 Félix sur 28 que compte Koumougou. Aussi, la délocalisation de ces Félix qui, jusque-là, empêchent même les paysans à s'occuper normalement de leurs travaux agricoles.
À ce jour, 8 présumés auteurs ont été arrêtés, mais selon les parents des victimes, ils n'ont pas encore été présentés à un juge.
Même s'ils ont arrêté, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne peux pas dire qu'ils sont arrêtés. Je ne crois pas. C'est vraiment triste parce que ce jour, les autorités ont beaucoup parlé. Ils Jusqu'à là, il n'y a pas de localisation des vertuaires. Le gouvernement a décidé d'aller désarmer ceux-là qui ont tué nos frères. Mais ils ont travaillé aux alentours de Sanana, mais les tuer, on ne les a pas désarmés.
Je pense que la population est en train de vivre avec la peur au ventre. Ça veut dire que rien n'est clair. Parce que les éleveurs, là, ils continuent toujours à narguer la population.
La commission d'enquête préliminaire qui a été mise sur pied au lendemain de ces événements a déposé son rapport partiel le 11 mars dernier à qui de droit. Mais aucune action publique n'a été déclenchée par le parquet d'instance de SAR, déplore Carlos Girayadi, président du comité de crise de Sandana.
Aujourd'hui, ses parents ont les yeux tournés vers la justice qui peine à déclencher la procédure. Et on croit qu'il y a des mains derrière toutes ces situations avec cette transition où tout le monde cherche à voir le cadre net. Il faudrait bien que la loi s'applique quand même quelque part pour faire peur certains.
Maître Mireille Grimba est l'un des avocats de la partie civile dit ne pas comprendre la mise en place d'une commission dans cette affaire alors que la justice fonctionne en plein temps.
Je note tout simplement qu'il y a une volonté de ne pas rendre justice parce que le code pénal et le code de procédure pénale prévoient les mécanismes et les procédures de saisine du juge. Maintenant, quand on est sur une commission, qu'est-ce qu'on veut exactement? On ne comprend pas très bien pourquoi le gouvernement veut noyer le poisson. En même temps, quand on est sur une commission, il va falloir que la procédure pénale et judiciaire ordinaire soit lancée. Mais pourquoi toute cette confusion-là?
Selon des sources proches de la commission d'enquête, en plus d'un rapport partiel, des procès-verbaux préliminaires établis par les officiers de police judiciaire ont été transmis aux autorités compétentes pour éviter tout retard dans le déclenchement de la procédure judiciaire. Pour sa part, l'autorité de poursuite estime que c'est un dossier très sensible qui va aller certainement en instruction mais refuse de se prononcer sur cette lenteur judiciaire. André Kodumadjingar Njamena pour VOA Afrique.
Rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Ici aux États-Unis, les démocrates prévoient de voter cette semaine au Sénat sur un projet de loi fédérale qui garantirait le droit à l'avortement. Ceci à la suite d'une fuite d'un document de la Cour suprême qui, s'il est confirmé, pourrait annuler la loi historique de 1973 qui a légalisé l'avortement à l'échelle nationale. Mais la législation devrait être bloquée par les républicains. C'est un reportage de Arash Arasabadi avec le récit d'Abdourahman Dia.
La loi fédérale qui garantit aux femmes le droit à l'avortement pourrait toucher à sa fin aux États-Unis. Cela a commencé la semaine dernière avec la révélation d'une ébauche d'un avis de la Cour suprême. À ce jour, ce projet bénéficie du soutien de la majorité conservatrice de la Haute Cour pour annuler Roe v. Wade, la décision historique qui a légalisé l'avortement aux États-Unis. Sans cette loi, il reviendra à chaque État de décider. Pour les opposants à l'avortement, il faut respecter la volonté des électeurs. Le républicain Asa Hutchinson est gouverneur de l'État d'Arkansas.
Chaque État a des points de vue différents sur là où nous aurions dû être sur les restrictions à l'avortement. Dans l'Arkansas, notre politique, c'est de protéger la vie de l'enfant à naître. Et donc, oui, si Roe versus Wade est annulé, alors nous aurions automatiquement une loi en place pour protéger la vie de l'enfant à naître.
Des batailles idéologiques sur l'avortement ont émaillé ces cinq dernières décennies. Le sujet a toujours été parmi les plus brûlants lors des audiences de confirmation des juges de la Cour suprême. Alors nominé à la Cour suprême, voici ce que disaient Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch et Samuel Alito, tous des juges conservateurs.
Je n'ai aucun programme pour essayer d'annuler ceci. J'ai pour objectif de respecter l'état de droit et de trancher les cas au fur et à mesure qu'ils se présentent.
L'une des choses les plus importantes à garder à l'esprit à propos de la loi Roe contre Wade est qu'elle a été réaffirmée à plusieurs reprises au cours des 45 dernières années.
Roe versus Wade.
Roe versus Wade, décidé en 1973, est un précédent de la Cour suprême des États-Unis.
Les tribunaux doivent respecter les jugements et la sagesse qui sont incarnés dans les décisions judiciaires antérieures.
Les mesures de sécurité ont été renforcées autour du bâtiment de la Cour suprême après les révélations parues dans la presse. Mais pour la sénatrice démocrate Amy Klobuchar, la réponse se trouve dans les urnes.
Une nouvelle génération de femmes regarde cela et dit « Attendez, ma mère et ma grand-mère auront plus de droits que moi à l'avenir. Je vais devoir examiner un ensemble de lois dans les États, dont 15 cherchent déjà à interdire l'avortement médicalisé. C'est ce que les gens font en ligne, des choses comme ça. Ils vont se demander « Dans quel monde suis-je ?»
Plus de la moitié des avortements aux États-Unis sont des procédures médicales plutôt que chirurgicales. Les États dirigés par les républicains interdisent de plus en plus l'accès à ces médicaments qui traitent également une fausse couche. Certains États cherchent à interdire l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste. La décision officielle de la Cour suprême pourrait intervenir dès le mois prochain.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.